Dougoukoulou Alpha Oumar Barkonaré, l'identité transversale.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
En me baladant sur le continent, j'ai découvert un métier improbable, en tout cas que je ne connaissais pas, c'est fils de ministre. Vous pouvez sourire hein, derrière le poste, car je vous invite aujourd'hui à découvrir en sol majeur un fils de président, qui d'ailleurs ne joue pas forcément dans la catégorie fils de. Dougoukoulou Alpha Oumar Barkonaré, 33 ans, est chercheur et fondateur de l'observatoire Kissal, qui fait la promotion des droits humains à travers le Sahel, et d'une. Et de deux, il est psychologue clinicien et chargé de cours en langue et société Peul à l'INALCO en France. Fils d'une historienne devenue première dame du Mali de 1992 à 2002, notre invité bien loti et basé à Paris ne fuit pas ses responsabilités. Du mal-être des afrodescendants à l'identitarisme qui fait saigner le Sahel, il pense, plante, planche et plaide pour l'altérité et la connaissance en Descartes et en bamanant, comme maman. Bonjour, Dougoukoulou Barkonaré.
Bonjour.
Quel dommage que je ne puisse voir votre visage. À quand la fin de ce confinement? On ne se voit pas.
Eh oui, confinement à Paris, loin de tout le monde. Mais on essaie de faire avec.
Puis-je vous demander ce que veut dire votre prénom, Dougoukoulou?
Alors, mon prénom, on m'a toujours enseigné que ça voulait dire la terre. Donc, c'est comme ça que j'en ai parlé à tout le monde autour de moi. En un mot, donc c'est Dougoukoulou. Mais récemment, j'ai appris qu'il faut peut-être le voir autrement en tant que Dougoukoulou. C'est vrai que j'ai aussi entendu cette prononciation qui voudrait plutôt dire le fait de dompter, d'apprivoiser un pays.
D'apprivoiser un pays?
Exactement, parce que Dougou et Dougoukoulou, ça ne veut pas dire la même chose. Dougou, c'est plutôt le pays, un endroit, un lieu où des personnes vivent, une contrée, alors que Dougoukoulou, c'est vraiment la terre avec l'ossature. D'où le fait que Dougoukoulou en un mot et Dougoukoulou, ce n'est pas la même chose.
C'est joli ça comme concept, surtout quand on connaît votre trajet, ce qu'on ne connaît pas encore, mais on va y remédier.
On va essayer.
On va à distance s'introduire délicatement dans vos appartements, oui. D'abord dans la chambre musicale avec le Congolais Zao et son célèbre ancien combattant. C'est une chanson magnifique qu'on diffuse régulièrement sur RFI. Chanson magnifique, mais c'est une chanson d'hier.
Mmh. Mais c'est l'une des premières chansons que j'ai entendues. C'est l'une des premières chansons dont je me souviens.
Et que vous aimez, qui vous parle
Oui, j'ai réappris à aimer cette chanson parce que je l'avais oubliée pendant très très longtemps. Et un jour comme ça, totalement par hasard, je l'ai entendu et je me suis dit, ça me dit quelque chose. Mais bien sûr, avec l'oreille maintenant de quelqu'un qui parle, qui comprend le français, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et un adulte aujourd'hui, la chanson a un sens absolument totalement différent.
Makele pas, un, deux, ancien combattant, on a soukele. Makele pas, et un, deux, ancien combattant, on a soukele. Tu ne sais pas que moi, je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Fidjé, mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué Anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'a quéré pas. Et un, deux, ancien combattant, on a souqué, m'a quéré pas. Et un, deux, ancien combattant. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas vite, Changi, mon chéri, oh, il est cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, pas t'attrape, cadavre. Ta femme est cadavre. Ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavre, les reines cadavre, les empereurs cadavre, tous les présidents cadavre, les ministres cadavre, les gardes-corps cadavre, les montagnards cadavre, les militaires cadavre, les civils cadavre.
cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavres, ton deuxième bureau cadavres, la bière cadavres, le champagne cadavres, le whisky cadavres, le vin rouge cadavres, les vins de palme cadavres, les soulards cadavres, musique club cadavres, tout le monde est cadavre, moi-même est cadavre. Marquez-les pas, y'a un, deux, on s'est combattant, Bunda Sokiri. Marquez-les pas, y'a un, deux, on s'est combattant, Bunda Sokiri. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser le ballon. Les joueurs cadavres, les arbitres cadavres, le sifflet cadavres, même les ballons cadavres, les équipes cadavres, il y avait les noirs cadavres, l'étoile du Congo cadavres.
Inichi, Zao, de faire revivre la langue des tirailleurs. On a même une pensée pour Samban Ousmane. Et un grand merci en sol majeur grâce aux oreilles sensibles de notre invité, Dougou Kolo Bakonare, né avec un illustre livret de famille. Bah, autant le saluer, autant s'en débarrasser aussi tout de suite.
F comme fils de.
Alors on entend au loin la voix de votre père Alpha Oumar Konaré, qui, je le rappelle, a été président du Mali de 1992 à 2002. Question pour, j'espère, vous faire sourire. Est-ce que fils de président, Dougou Kolo, c'est un métier?
Je pense que ça peut absolument être un métier. Ça peut être un métier si on en maîtrise les codes. Ça peut être un métier si jamais on essaie d'en mettre les bottes. Et ça peut être un métier si c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien. Par contre, si c'est quelque chose qu'on oublie parfois, quelque chose dont on est surpris de se rappeler, quelque chose qui ne nous met pas forcément à l'aise, alors là, ça peut être plus compliqué d'en faire un vrai métier.
Alors, est-ce que c'est votre métier? L'un de vos métiers?
Malheureusement, heureusement, non. c'est toujours très ambivalent. Malheureusement, dans le sens où je pense que ça aurait peut-être pu porter certaines de mes luttes, ça aurait peut-être pu m'ouvrir un certain carnet d'adresses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, heureusement, dans un sens aussi. Heureusement, parce que malgré ça, j'apprends à découvrir de nouvelles personnes. J'apprends à enlever aussi des connotations à mon travail. Donc, c'est très surprenant pour certaines personnes avec qui je collabore de découvrir cette réalité de mon passé. Mais par contre, ça ferme certaines portes.
Alors, il faut quand même qu'on en dise un mot. Le président Alpha Oumar Konaré a laissé une image mitigée. On l'a accusé de 1000 choses. J'ai pu lire qu'il avait été perçu comme un assassin, un antidémocrate, un corrupteur, corrompu, un marionnettiste. Caché derrière ATT, comment le fils a pu vivre cette aura pleine d'ombre, Dougou Kolo?
Peut-être qu'on peut rembobiner avec le recul que le temps nous permet. Aujourd'hui, je trouve que ce sont des choses de bonne guerre. C'est le jeu de la démocratie et c'est comme ça que les choses doivent être au Mali pour avoir une posture critique. Je le vois aujourd'hui avec tout ce qu'on fait par rapport au gouvernement actuel, sur lequel je n'ai pas une opinion polarisée du tout. Je pense qu'on est vraiment dans le gris. Donc aujourd'hui, pour l'adulte, il n'y a pas de problème. Mais peut-être pour l'enfant, c'est des choses qui étaient plus difficiles. De l'âge de 5 ans à 15 ans, et puis je dirais même avant et un peu après, j'ai aussi vécu les campagnes de mes parents. Ça, c'était par contre très difficile. Disons, de voir mon père en campagne, s'être blessé dans un accident, et après de le sentir en danger, et après d'entendre ces choses aussi en parallèle. C'est quelque chose qui n'était pas facile à vivre parce qu'en même temps, donc on oscille entre anxiété, entre tristesse, entre sentiment de culpabilité. Bon, après, ça prend du temps et puis on se rend compte que c'est plus facile peut-être pour la personne qui est critiquée que pour son entourage.
Et oui, on en parle peu de l'entourage, mais c'est vrai que c'est important. Donc, fils de président, que vous le souhaitiez ou non, que vous preniez vos distances ou non, c'est un métier malgré vous. Et votre problème à vous, c'est ce fameux regard. Les petites gens se disent, sans rentrer dans la politique du tout, mais que quand même, c'est un destin cousu de fil blanc. Les présidents africains en général étaient en contradiction souvent avec ce qu'ils prônent. Ils se font soigner en Europe. Ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles de Washington, de Londres ou de Paris, ce qui a d'ailleurs été votre cas. La question reste, on a la sensation que c'est vraiment un cadeau empoisonné, fils de président.
Je pense qu'il faut vraiment endosser tous ces attributs. C'est-à-dire que ce sont des discussions dans lesquelles on est très souvent. Il faut, comme lorsqu'on enseigne l'histoire, il faut parler des choses qui ont été des privilèges, en bien ou en mal. Là où je dis qu'il faut vraiment endosser qui on est entièrement, mais donc faire un travail de réparation, c'est dans le sens où, de la même manière qu'on est enfant de président, nous sommes aussi dans des sociétés archaïques par bien des égards en Afrique. Lorsqu'on est dans une classe de noblesse, d'aristocratie, lorsqu'on a aussi le passé de famille esclavagiste, qu'on a le passé de famille djihadiste, etc., je pense qu'il faut vraiment se remettre en question, remettre en question notre histoire pour justement pouvoir mieux en tirer des leçons.
Ça donne du sens, finalement, à votre histoire en même temps.
Je trouve que oui, parce que ça rend très humble de remonter son arbre généalogique, de les connecter avec la vie qu'on a maintenant et avec les aspirations qu'on a. Dans ce sens-là, vraiment, ça permet de garder la tête froide et de se dire « c'est très difficile cette situation qui est en train de se passer, mais c'est l'histoire, c'est la politique. Essayons de voir comment on peut potentialiser et en faire autre chose. »
Dougoukoulo, vous allez voir, là, ça va être un petit peu moins douloureux. Vous êtes aussi le fils d'une grande féministe, ex-première dame du Mali, Adamba Konaré, qu'on embrasse en sol majeur, qui aime toujours évoquer son Mali en historienne et qu'on retrouve là juste quelques secondes. C'était lors de notre visite en sol majeur à Bamako en 2011.
Vous savez, le Mali est une grande nation qui a dépassé beaucoup de situations. Il n'y a pas de guerre ethnique. Dans chaque famille, vous trouverez une ethnie. Parce que les rois maliens, justement, avaient comme tactique pour pouvoir bien régner donc cette politique matrimoniale-là. Donc, on a quand même hérité de cette situation-là. Ce qui fait que nous vivons le multiculturalisme au quotidien. C'est devenu un comportement culturel qui passe comme ça. Une personne ne s'en rend même pas compte.
Sans y réfléchir. Et la langue peul, alors, qu'est-ce qu'elle est devenue?
Alors, cette langue peul-là, c'est extraordinaire, évidemment. Nos grands-parents ne comprenaient même pas le bambara. Mais tout ça, pour pouvoir exister dans un milieu où on était minoritaire, on a dû nous laisser parler les langues extérieures. Et ça, c'est une situation assez remarquable, parce qu'on se cachait, on avait même peur, pour ainsi dire, de parler notre langue maternelle.
Vous ne parlez plus le peul?
Je ne parle plus. Et d'ailleurs, tous ces Futaka de Ségou, de Koulikoro, de cette jeune Bambara ne parlent pas le peul. On aime plaisanter là-dessus en disant que la colonisation Bambara était très forte et que numériquement parlant, ils sont tellement nombreux que finalement, ils ont fini par nous digérer. Et voilà, on se trouve dans cette situation.
Adamba Konaré, rencontrée pour un seul majeur à Bamako dans ce musée de la femme qu'elle a fondé. Allez-y d'ailleurs, hein, si vous êtes vous-même à Bamako, c'est non seulement un musée, mais c'est aussi une maison des femmes. Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère. C'est un proverbe juif d'ailleurs, je crois, en exergue du site de ce musée. Pour cette question, Dougoukoulo, que vous a transmis votre mère ?
Beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est pour ça que sur l'idée que c'était peut-être moins difficile avec elle, je ne sais pas si je suis aussi catégorique, parce que c'est quand même une femme, et c'est une femme qui a fait des études, c'est une femme qui a été universitaire, qui est encore universitaire aujourd'hui, c'est une femme qui a été épouse de militants, c'est une femme militante elle-même, c'est une femme qui a été épouse de président, et c'est une femme, ce qui veut dire qu'elle a été particulièrement cible de certaines attaques, elle a aussi dû devoir se justifier, du devoir pour chaque étape de sa vie se battre, mener un combat avec elle-même, mener un combat par rapport à la société et mener un combat politique dans un certain sens pour faire reconnaître la valeur des femmes et la valeur de son travail à elle. Et d'ailleurs, une chose que je trouve très importante, c'est que lorsqu'elle a commencé à écrire et que son grand-père, dont elle est très fière qu'il a élevé, a vu qu'elle se présentait comme Adam Kunareba, il a dit « mais c'est pas possible, il faut que tu mettes ton nom en premier ». Et je trouve que ça illustre bien le combat que les femmes doivent faire tout le temps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai tenu à utiliser comme nom d'usage les noms de mes deux parents, parce que je trouve que c'est une justice à rendre finalement.
Alors avec une mère historienne telle que Adamba Konaré, on se souvient notamment de son grand coup de gueule contre le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Donc avec elle, sans parler de votre père, hein, lui-même, qui a été professeur au département histoire-géographie de l'École normale supérieure de Bamako, quel est à vous votre rapport à l'histoire ?
L'histoire, j'ai toujours baigné dedans. C'est quelque chose que j'ai très vite pu comprendre comme étant essentiel. Et l'histoire avec un grand H, ça m'a permis de me reconnecter, je dis bien reconnecter, même ça a l'air assez, assez curieux, avec mon histoire personnelle, mon histoire généalogique.
Vous pensez à quoi ?
Ah, je pense par exemple à certains affres de l'histoire qui d'ailleurs opposent plusieurs côtés de mon arbre généalogique, au fait que ma grand-mère paternelle est de la royauté du Kasso, donc un ancien royaume du Mali dont on retrouve bien sûr la communauté et la culture aujourd'hui, et qui a très vite travaillé avec les Français au moment de la pénétration coloniale, et qu'en même temps, du côté maternel, il y a cet héritage des gens du Fouta, comme ma mère le disait tout à l'heure, de ces personnes qui sont venues pour la guerre sainte dans ce pays-là, au Mali actuel, et qui sont donc confrontées aux Français, à leurs alliés locaux, mais en sachant que là aussi, les choses sont compliquées, parce que mon père, lui aussi, il est d'une grand-mère qui a des racines au Fouta. Donc c'était une redécouverte pour moi, quelque chose qui me permettait justement de mieux faire face aux ambivalences, et aussi d'apprendre comment, à travers ces ambivalences, on peut quand même trouver des facteurs d'énergie, de fierté.
Le gris de l'histoire, hein, déjà. Avec une figure peut-être héroïque et emblématique qui vous parle peut-être plus intimement à vous, Dougo Koulo, c'est El-Hadj Omar Tall.
Tout à fait. El-Hadj Omar Tall, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal avec lui parce que je trouve qu'il est très problématique. D'ailleurs, je suis très critique de El-Hadj Omar Tall. Ah. Mais tel qu'on m'a enseigné El-Hadj Omar Tall à l'école au Mali, à l'école publique, parce que mes parents avaient tenu que j'y sois jusqu'en sixième année, ce qui d'ailleurs était assez compliqué pour moi. J'ai appris El-Hadj Omar Tall en tant que personne qui s'est opposée aux Français. Et par la suite, avec le temps, j'ai découvert que oui, c'était pas si net que ça, parce qu'il s'est opposé à des rois locaux. Et puis par la suite encore, au moment de mes études universitaires, j'ai appris que El-Hadj Omar Tall et les siens ont commis des massacres atroces, et que justement, quand on parle aujourd'hui de djihadistes, qu'on oppose aux djihadistes d'avant en disant « mais le djihad d'avant, c'était pas comme celui de maintenant, c'était sur des bonnes bases », je veux dire, je pense que si on avait eu les moyens de compter à l'époque, on aurait pu relever des dizaines de milliers de morts par les troupes omariennes, mais aussi par d'autres belligérants de cette période-là et même d'avant dans nos histoires.
Et comme échiquier.
Est-ce que vous êtes un joueur d'échecs, Dougo Koulo ?
Malheureusement, non. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, toi, sûrement que tu joues les échecs, tu as dû apprendre, ou alors oui, c'est quelque chose qui te parle sans doute. » Et absolument pas, les rares fois où j'ai essayé, j'étais vraiment nul aux échecs.
Pas grave, hein. Si on avance les pions de votre vie, voyons un peu, vous êtes né donc par hasard à Paris en 87, vous allez vivre votre enfance au Mali jusqu'au bac, donc pendant le mandat de papa. Puis vos parents s'envolent pour l'Éthiopie et là vous n'y restez pas. Pour quelle raison ?
Et non, l'Éthiopie c'était ma première fois d'habiter réellement à l'étranger. L'Éthiopie, pour moi, ça signifiait quitter le Mali, un endroit où enfin j'avais l'impression que je commençais à prendre pied, parce que c'était un an après la fin du mandat de mon père. Je redécouvrais des relations avec des gens, des relations souvent très agressives, de gens qui, pour qui la parole se libérait tout d'un coup, mais aussi des relations plus saines, dans le sens où on se redécouvrait. Et puis, il y avait quand même eu cette année où donc... mon père avait quitté la présidence, on avait déménagé ailleurs, et puis où il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné socialement, politiquement. Puis il y a eu cette histoire de commission de l'Union africaine où d'autres personnes ont essayé de venir. Donc moi, j'avais l'impression qu'avec tout ça, j'avais les armes qu'il me fallait au Mali et il fallait tout recommencer ailleurs, essayer de se faire de nouveaux amis, être dans une Afrique qui, même en termes de climat, n'était pas mon Afrique à moi. Je veux dire, même le soleil, pour moi, n'était pas pareil en Éthiopie. Et puis, il fallait se revoir d'une autre manière en tant qu'Africain, non Habesha, comme c'est de cette manière que beaucoup d'Éthiopiens font référence à eux-mêmes, en Éthiopie. Donc, être Africain en Éthiopie, mais être, faire partie d'une minorité.
Donc, en quête de transversalité, vous retournez au Mali jusqu'à 16 ans avec la fratrie. Et puis ensuite, vous allez atterrir à Paris pour faire vos études de psychologie. Et vous voilà aujourd'hui donc psychologue clinicien donc, et chargé par ailleurs de cours en langue et société Peul, donc à l'INALCO à Paris, et chercheur et fondateur de l'observatoire KISAL, qui fait la promotion des droits humains à travers le Sahel. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces casquettes ?
Je sais que le lien n'a pas l'air d'être évident, mais je vais essayer de dérouler le fil pour qu'on comprenne ça. Donc, j'étais intéressé par la psychologie lorsque j'étais adolescent, parce que je me suis dit, c'est une science qui permet de comprendre ce qui se passe dans l'esprit des êtres humains. C'est quelque chose qui peut aussi me permettre de raconter des personnages, des gens de chez moi, et de donner sens aussi à ce qu'il y a dans la bonté, ce qu'il y a dans des choses plus difficiles, dans ce qu'on appelle souvent la méchanceté, mais qui a aussi plusieurs facettes, et de faire un travail de réconciliation avec soi-même et avec ses sociétés. Mais en étudiant, j'ai trouvé ça barbant, j'ai trouvé que c'était très déconnecté de ce que je voulais. J'ai fait un stage au Mali en psychiatrie, ça a tout révolutionné pour moi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment utile, j'avais affaire à des personnes qui souffraient. Et par la suite, je me suis intéressé pour ma thèse en doctorat au lien entre émotion et religion. Parce que je voulais comprendre comment la religion de ma société, la religion de mon héritage aussi, c'est quelque chose qui pouvait être employé. Et donc, pendant cette thèse, j'ai essayé de manière déviée, en biais, d'apprendre la langue Peul, qui n'est donc pas parlée par ma famille, en tout cas pas par mes parents. Et donc, c'est ce qui m'a amené à l'INALCO, où, disons, j'ai fait des infidélités à la psychologie. Et lorsque j'ai défendu ma thèse, j'ai vraiment tenu à faire le lien. J'ai dit, ce qu'il y a dans le lignage, ce qu'il y a dans notre histoire, c'est ce qui façonne aussi notre lien à nous-mêmes, notre lien à la religion. Ce n'est pas la même chose d'être bambara et d'avoir un lien avec la religion, comme ce n'est pas la même chose d'être d'une longue famille avec un héritage ancien arabe avec l'islam. Et finalement, avec cette vision de ma société, lorsqu'on a fait appel à moi en 2013 pour donner des éclaircissements sur ce que ça signifiait l'identité religieuse, l'identité nationale par rapport à la communauté Peul, et on m'a dit, essaie de fonder un observatoire, de faire une association, de faire un mouvement de promotion des droits humains pour les pasteurs, pour les bergers. Et après, c'est devenu quelque chose de plus large parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas enlever le lien entre le pastoralisme et les violations de droits humains par les armées nationales sahéliennes et les attaques par les milices communautaires aussi. Donc tout s'est enchevêtré de cette manière-là. Et pour moi, ça fait sens parce que c'est le même combat militant autour des questions identitaires, des questions émotionnelles. Mais j'entends bien que pour des personnes qui ne me connaissent pas, ça a l'air d'être un brouhaha assez confus.
Non, pas tant que ça. C'était une fausse question. aujourd'hui, faut quand même qu'on dise un mot de votre casquette de psychologue. Vous pratiquez en libéral dans un cabinet et vous travaillez, je crois, prioritairement avec des populations afrodescendantes et des populations du Maghreb. On vous consulte pour quelles raisons ?
Lorsque moi je reçois des patients, généralement les personnes qui ne m'ont pas trouvé par hasard sur Doctolib ou sur Internet, ce sont les personnes qui ont eu des recommandations de venir vers moi en tant que psychologue racisé, comme on dit ici en France, donc non blanc, et en tant que personne qui a aussi travaillé sur les questions de religion, mais aussi sur les questions de genre. Et de ce fait-là, on vient pour l'identité que moi j'ai. Je dirais que ce n'est pas ce que j'ai mis nécessairement moi en avant, mais c'est ce que mon parcours a créé autour de l'interculturalité. Et c'est aussi ce que mon identité a imposé. C'est dans ce sens
mais c'est
que
déterminant.
Que...
C'est aussi déterminant ouais. dans votre pratique, j'imagine. Surtout si ce sont effectivement des populations d'afro-descendants ou du Maghreb qui viennent vous voir. De quoi souffrent prioritairement vos patients ?
Le racisme systémique et les microagressions. Si je dois résumer vraiment de manière courte, c'est ça. Mais je dirais en gros, ce sont des personnes qui viennent me voir, soit parce qu'elles ont vu d'autres thérapeutes et c'était pas possible parce qu'il y avait une violence interculturelle. Moi-même, j'en ai fait l'expérience lorsque j'avais un thérapeute blanc qui vraiment m'a dit des choses qui m'ont blessé pendant des années, mais je me suis senti obligé de continuer en me disant « mais c'est pas lui, c'est moi ». Mais non, il ne faut pas accepter la maltraitance.
C'est très, très problématique en même temps ce que vous dites. Donc, un psychologue blanc ne pourrait pas prendre en charge des questions liées au racisme de personnes noires.
Je pense qu'en France, souvent, on schématise autour de ça et puis on est très rapidement dans des conversations sur le communautarisme. Un psychologue blanc peut absolument être le thérapeute de personnes racisées, de personnes d'origine diverse. Comme moi, en tant que psychologue afro-descendant, je peux bien sûr avoir des patients qui sont blancs. Je pense qu'il y a une question de formation, il y a un travail sur soi-même, un travail de déconstruction à faire. Et je dirais que l'expérience d'être une personne racisée, d'être une personne minoritaire, c'est aussi une expérience qui nous donne des bases dans lesquelles on va nous-mêmes chercher un lien avec l'autre. Et je pense que par ailleurs, chacun doit avoir la possibilité de voir les personnes qui mettent plus à l'aise. Si on a envie de voir un thérapeute musulman, qu'on aille le voir tout simplement parce qu'on se sent plus à l'aise. Et par la suite, si ça se trouve, on décidera que non, en fait, j'ai vu des limites, j'ai envie de voir quelqu'un qui n'est pas de ma communauté, parce que tout simplement, je me sens moins jugé par quelqu'un qui est de l'extérieur, par exemple.
On va traverser votre appartement pour rejoindre l'observatoire Kissal, dont vous êtes le fondateur, et en dire un mot. Observatoire où apparemment vous réfléchissez sur les questions de sécurité au Sahel entre Dogon et Peul. J'ai envie de faire une question transversale aussi. Est-ce qu'il faut être un peu un expert de la psychologie interculturelle pour régler ces questions de sécurité entre ces deux ethnies ?
Je dirais que mon expérience de psychologue, ça m'a servi là aussi à lire entre les différentes nuances de gris. Je veux dire, moi, ayant été identifié à la communauté Peul, bon, parfois on ne me demande pas mon avis, et bon, pour moi-même aussi, ça dépend des environnements, j'ai dû faire un travail de déconstruction. On m'a déjà accusé d'être raciste, anti-Dogon. C'est quelque chose que je me suis pris comme une vraie claque. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais en fait, oui, j'ai employé ce terme-là qui n'est pas acceptable.
Quel terme vous avez employé ? Inacceptable.
J'ai employé le terme, alors c'est au pluriel, j'ai dit Haabe, et au singulier en Peul, c'est Kaado. Kaado, c'est comme ça que nous, on a tous appelé les Dogons en grandissant. Mais après, on a appris que c'est quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et moi, de manière un peu moqueuse, d'ailleurs pas par rapport aux Dogons, par rapport aux Peul, j'étais en train de me moquer de certains militants Peul en disant voilà, par vos actions, vous allez faire que les autres communautés vont stresser et vous traiter de communautaristes. J'ai dit quelque chose comme voici qui va faire jaser les Haabe.
Voilà, on traduira par les...
Oui, Haabe, peut-être, c'est les étrangers, ceux qui n'est pas Peul. Et avec tous les préjugés, les stéréotypes négatifs que des Peuls ont pu attribuer aux Dogons à travers les siècles. Donc oui, je comprends que c'est quelque chose dont moi j'ai ri, c'est quelque chose que moi j'ai dit de cette manière, en me disant que justement, il y a un sentiment de fraternité entre nous, chacun peut dire ce qu'il veut, comme ma mère disait, on est les uns brassés avec les autres. Mais en fait, non. Et donc, pour faire ce travail sur moi-même, je pense que ça m'a aidé d'être psychologue.
Donc, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la transmission, vous écrivez notamment sur les conflits entre Dogon et Peul, en analysant cette soi-disant cohabitation idyllique hein, entre les deux ethnies, vous dites qu'au gré de l'histoire, en fait, les rapports de dominant-dominé ont été fluctuants et ont bien changé de camp. Il faut vous lire. Mais bref, Duo Kulo Umar Alpha Bakonare, vous ne pouvez rester les bras croisés devant votre pays qui brûle. C'est ce que je remarque.
Il n'y a pas le choix. Après, parfois, il faut passer par d'autres chemins. Notamment, il y a des questions très épineuses où je trouve que quand c'est chez nous, on a du mal à en parler. Avant même la rébellion de 2012, je me souviens que je parlais des épisodes tragiques de l'histoire malienne où les Touaregs ont été victimes de manière très massive, très cruelle depuis les premiers jours de l'indépendance. Et c'était très difficile à entendre pour d'autres personnes. Mais par contre, lorsque je parlais de Touareg dans d'autres endroits, ou lorsque je parlais de problématiques similaires à celles du Mali, mais pas en tant que Malien, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup moins frontal de manière émotionnelle, et ça me permettait même de mieux revenir vers le Mali. Et donc finalement de pouvoir me mêler à ce qui se passe au Mali avec cette expérience acquise ailleurs.
En tout cas, la politique, non, pour aborder, approcher toutes ces thématiques. Non, c'est non apparemment pour vous, Dougo Kulo.
Moi, non. Moi, je me mets dans la position de quelqu'un qui est légataire, héritier d'une vie politique qui a déjà été faite. Donc, pour moi, ça, c'est autre chose. Dans ma position personnelle à moi, je connais des choses, j'ai vécu des choses que je peux partager avec les autres. Donc, là où je suis, à ce temps T, c'est ce que je peux proposer et je pense que c'est ce qui est utile et audible. Le reste peut se perdre dans du sang qui n'est pas utile.
En tout cas, cette question de l'identité brûlante, elle chauffe sous vos multiples casquettes. Et je dirais qu'avec les réseaux sociaux, vous êtes, comme nous tous d'ailleurs, en temps réel sur cette question, là où ça dérape, que ce soit à Mopti, au Mali, ou à Minneapolis, aux États-Unis.
Breaking news tonight, the rage across America, chaos in cities coast to coast, violent clashes between police and protesters.
Il est déjà tard dans la nuit, mais des milliers de manifestants ne sont pas prêts de rentrer chez eux. La mort de George Floyd, tué par un policier qui avait écrasé son cou pendant 8 minutes, a choqué des millions d'Américains.
The damage tonight is necessary. You know why? Because this is how we feel every day walking down the street. We get to feel like we don't belong there. We get to feel like trash. We get to feel like garbage.
Est-ce que Dougo Kulo, Oumar Alpha Bakonaré pour En Sol Majeur, vous reprendriez ce cri des manifestants suite au meurtre de George Floyd ? Je ne peux pas respirer ?
Absolument, absolument, totalement, intégralement, parce que je pense que ça a beaucoup à nous enseigner sur ce que sont les oppressions systémiques. Par rapport au genre, par rapport à la communauté, est-ce que c'est aussi que la révolution contre un système qui est injuste? D'ailleurs, les combats des Afro-Américains, ce sont des combats qui ont inspiré aussi bien les natifs américains que même, j'ai souvent vu sur Internet, des alliés des rébellions Touareg au Mali parler, citer de grandes figures afro-américaines. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de Peuls en parler aussi. Et je trouve qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de transporter dans les débats. Je ne suis pas en train de faire le soutien de certains mouvements armés. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'avoir cette perspective-là pour pouvoir ouvrir des débats. J'entends très souvent ici en France des personnes dire « Oui, mais ça n'a rien à voir, ce sont les Afro-Américains. Nous, on n'a pas du tout cette histoire avec les Noirs. Nous, on n'a pas vécu dans une société de ségrégation, d'esclavage. » Mais je ne suis pas si sûr que ça. Et je pense qu'il faut vraiment aller chercher les outils intellectuels là où on peut aller les trouver.
Mais est-ce que vous vous dites, Dougo Kulo, que finalement il faut regarder du côté de la balance qui penche positivement, j'ose le terme? On a vu par exemple que dans les manifestations aux États-Unis, les Blancs et les Noirs sont ensemble, descendent ensemble. On a pu aussi voir s'agenouiller dans un quartier du Queens, à New York, des policiers s'agenouiller en signe d'apaisement. Est-ce qu'il faut regarder ça ou bien excéder par la très longue liste de tous ces Noirs tués par des policiers blancs? Est-ce qu'il faut mettre le feu, comme on l'a vu dans plusieurs villes américaines?
Absolument pas pour mettre le feu. Je suis un grand pacifiste, c'est ce que je rappelle toujours. Mais cela étant dit, je pense que ce n'est pas le moment des policiers, ce n'est pas le moment des Blancs. Ce n'est pas leur parole à eux, leur photo à eux qui importe aujourd'hui. Les Blancs, les policiers peuvent se positionner, c'est très utile, c'est très bien, ce sont des images fortes, mais ce n'est pas ce qui doit nourrir pour le moment. Pour le moment, on doit mettre en avant ceux qui ont vécu ces violences systémiques, ces oppressions perpétuelles. On ne peut pas leur voler leur combat au nom de... oui, nation arc-en-ciel, on est tous pareils, Kumbaya, etc.
Vous n'y croyez pas?
Ça peut se faire, mais tout est progressif. C'est comme lorsqu'on est, oui, ça, Obama est président, le racisme est fini. Ou alors, oui, ça y est, on est tous sortis dans la rue, donc ça y est, le racisme est fini. Ou alors, voilà, on a fait une grande marche, voilà, la misogynie, c'est fini. Non, c'est pas fini, ça va continuer. Et c'est pour ça que justement, les blancs, les policiers, les personnes qui ont du pouvoir, qui sont à l'intérieur de ça, ne doivent pas seulement mettre en noir leur profil, prendre des photos, mais doivent s'instruire et doivent en parler autour d'eux aussi, dans leurs environnements, pour que ce soit une parole qui est disséminée sur plus de temps.
Qu'est-ce que le mot visa évoque pour vous ?
Le mot visa, ce qu'il m'inspire, c'est toujours du négatif. Bien que moi, j'ai le privilège d'avoir eu très tôt, toujours même, accès à des visas pour aller à l'étranger, j'ai toujours su autour de moi que des membres de ma famille, que des amis, des proches, ou à travers l'actualité, beaucoup de personnes avec moins de privilèges n'avaient pas accès à ça. Et je connais des gens personnellement, aussi bien à travers le boulot que dans mon entourage, à travers des amis, dans ma propre famille, qui vivent dans des pays en situation irrégulière. Donc, visa, à chaud, pour moi, ça ne peut que me rappeler des souvenirs et des constatations douloureuses.
Mais c'est bien, c'est tout à votre honneur hein, que ce mot visa vous mette mal à l'aise, vous qui êtes privilégié. Cela dit, où que vous jetiez votre sac, il y a des tensions, même pour vous, le privilégié. Vous qui vivez entre l'Afrique, l'Europe, le passeport diplomatique, je ne sais pas, en tout cas le passeport français, vous vous sentez rattrapé intérieurement plutôt par un conflit identitaire ou plutôt par un conflit de classe ?
Pourquoi pas les deux ?
Ah, ça ?
Pourquoi pas les deux ? Moi, il y a des jours où vraiment je suis entouré de personnes de la communauté Peul, où j'oublie que je ne fais pas partie de cette communauté. Même si, oui, il y a trois grands-parents qui sont Peul, mais quand même, ce n'est pas comme ça que moi je me voyais.
De donc, quelle communauté, alors ? Vous faites partie, vous, alors ?
Moi, quand on me demande, automatiquement, je dis je suis Bambara. Parce que j'ai grandi avec la langue Bambara, parce que mon grand-père est Bambara. Et c'est comme ça que je me suis vu jusqu'à l'adolescence, principalement. Et donc, lorsque je suis entouré de Peul dans une communauté, il y a cette dimension de Peul même, je dirais, de gens libres, ce qu'on appelle aussi parfois des castes de la noblesse. J'oublie ces enjeux identitaires-là. J'ai finalement l'impression que je suis Peul comme eux. J'ai l'impression que oui, on est tous pareils, donc il y a des questions que je ne me pose plus. Comme lorsque je suis avec des musulmans tolérants, ouverts, de traditions mystiques soufis, etc. Il y a des choses que j'oublie sur les autres types d'islam qui existent. Donc lorsque on va hors de ces mondes, c'est là où on se questionne et qu'on se rappelle de ce qu'il y a.
Et vous voyez votre vie confinée où, prioritairement ? Confinée au sens ancré, hein ?
Ah, je dirais confiné sur les routes. Je sais, je triche, mais pour moi, il n'y a pas de manière de répondre autrement parce que je suis dans une forme d'errance, aussi bien au Mali qu'en France maintenant, et je ne peux pas être la personne d'un autre lieu, d'autant plus que là aussi, en remontant mon arbre généalogique, j'ai vu que j'ai des racines au Sénégal, que j'ai des racines en Mauritanie. Et donc finalement, c'est l'histoire qui a fait qu'aujourd'hui, je suis malien. Donc pourquoi se cantonner à ça ? Pourquoi se confiner à ça ? Pourquoi ne pas voir ailleurs ? Et comme toujours, pourquoi ne pas voir ce qu'il y a comme énergie qu'on peut exploiter pour soi et qu'on peut exploiter aussi pour ses combats ?
Juste, vous auriez pu finir diplomate hein, quand même, Dougou Kolo.
நீங்கள் எப்பொழுது மற்ற மொழியில் யோசிக்கிறீர்கள்
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue?
Penser dans l'autre langue, moi je dirais que là aussi c'est une question d'aller-retour. J'ai pas de réponse immédiate. Par intuition, j'aurais dit que je pense en français parce que c'est la langue dans laquelle j'ai évolué de manière scolaire, puis de manière professionnelle, académique, etc. Mais ça ne va pas de soi parce que le bambara était quand même ma première langue. C'est la langue dans laquelle j'étais monolingue jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Et d'ailleurs, j'ai eu des soucis d'apprentissage pour lesquels on se moquait de moi en famille. Et puis, l'anglais, je l'ai appris par la suite. Ça a été vraiment une langue des médias pour moi, une langue dans laquelle je me suis surpris à réfléchir en termes d'émotions. Puis, j'ai appris l'espagnol qui m'a aussi bercé pendant longtemps. J'ai voulu apprendre la langue Peul lorsque j'ai redécouvert mon héritage, mon ascendance. Et j'ai voulu apprendre aussi le japonais à un moment. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent dans ma pensée. Mais je fais l'hypothèse que le bambara, c'est vraiment ce qui est le socle. Parce qu'on m'a réveillé en pleine nuit, une fois, et c'est en bambara que je me suis exclamé. Je me suis énervé, vraiment mis dans une très grande colère très récemment. Et je n'avais plus les mots en français. Et il n'y a que le bambara qui était possible pour moi, dans lequel... En plus, j'ai mobilisé des ressorts culturels et je dirais même des ressorts narcissiques pour exprimer ma colère.
Ah bon, c'est quoi ça, un ressort narcissique en bambara?
Pour moi, c'était tout ce qui est de l'ordre de la dignité. Comment est-ce qu'on peut agir de cette manière honteuse? Comment est-ce que ça, c'est possible? Je sais bien sûr comment le dire en français, mais en français, je ne me construis peut-être pas comme une personne qui doit socialement être digne.
C'est moins un concept en bambara qu'une espèce de colonne vertébrale, une ossature, véritablement.
Absolument.
Donc vous avez été bercé, c'est très joli de le dire, autant par l'épopée homarienne, finalement, que par les histoires de la comtesse de Ségur, qui ont bien réussi à rentrer dans cette caboche dure comme caillou. mais le must pour en sol majeur, ça va être ce poème que vous nous avez ramené, un poème en bambara, un poème de qui ?
C'est un poème de Rabindranath Tagore, qui est donc prix Nobel de littérature en 1913, donc qui est de culture bengali, qui est vraiment l'un des grands penseurs, philosophes, écrivains, paroliers de l'Inde et du Bengale de manière générale. Et donc c'est un poème tiré de son livre, le Gitanjali, et qui a été traduit par la maison d'édition de ma sœur, les éditions Kouris, en langue bambara.
Alors, ça s'appelle l'offrande lyrique, on vous écoute pour en sol majeur.
Yoromi moro hakli sigilendo, aniki kun korota. Yoromi na donia jenselendo. Yoromi diema tlatlani kogonuye. Yoromi kumaobe fojele aka. Yoromi barabara chesiribe bange kanye. Yoromi tnyeka tunun lada kun ojalan kono. Yoromi eba to yaklibe miriani waleya sankorota. Ato. Là où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée, là où la connaissance est libre, là où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, là où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, là où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, là où le clair couvrant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume. Là où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père permet que ma patrie s'éveille.
Magnifique. Pourquoi ce poème ?
Ce poème, parce que je trouve que ça symbolise bien ces allers-retours, ces entrecroisements, ces voyages entre différentes identités, ces apprentissages qu'on peut faire les uns des autres sur le plan militant, sur le plan culturel. Tagore est quand même un parolier qui a composé des hymnes, qui inspire encore aujourd'hui, même notamment sur les questions d'écologie. Et j'ai trouvé que c'était un beau symbole, finalement.
Ce poème dit aussi quelque chose de la déférence que vous devez à votre père et peut-être à votre nom. Je sais bien que vous êtes un bas connaré, mais je m'adresse au connaré. Est-ce qu'il y a une obligation ou un interdit quand on est un connaré ?
Ce que mes pères m'ont toujours dit, c'est « Tu es l'homonyme de M. Dougoukolo. Tu es l'homonyme de notre père enseignant. Tu es l'homonyme de notre père républicain. Tu es l'homonyme de notre père humble. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. » Et je me souviens, ma grand-mère, lorsque j'étais enfant, ma grand-mère paternelle, et que je faisais des choses qui ne lui plaisaient pas, elle me disait « Toroma torotila », c'est-à-dire « Tu n'as pas le nom de ton homonyme », comme pour dire « Tu n'es pas en train d'agir d'une manière qui est conforme à la manière dont ton homonyme est ». Donc je pense que là aussi, il y a ce socle qui est transmis, que mais chacun doit essayer de se construire selon sa problématique et selon son époque.
Merci Dougou Koulo. Donc, on comprend un peu mieux l'ampleur de ce beau prénom. On va devoir se quitter. La seule chose, c'est avec qui ? Est-ce qu'on va se quitter avec Fodé Kouyaté pour Fouta Foula,
oui.
ou bien avec Nina Simone pour The King of Love is Dead ?
On a assez parlé de Peul, donc on va laisser Fouta Foula, qui veut dire du Fouta, de notre pays d'origine, et on va aller avec Nina Simone, qui, je pense, a un message vraiment universel. Et The King of Love is Dead, c'est sur la mort de Martin Luther King. Ce n'était pas quelqu'un qui n'a prôné que le pacifisme, la non-violence, il a prôné aussi l'esprit de révolution. Donc Nina Simone se lamente en disant « Même lui, il est mort, le roi de la paix est mort. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? Qui nous reste ?»
Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen.
En sol majeur, à retrouver le jour, la nuit, en podcast sur votre application Pure Radio, ou bien en direct, c'est chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on se retrouve toujours confinés la semaine prochaine avec Pierre Singaravelou. À la semaine prochaine. Tout à l'heure.